Avec Annie Boilard, spécialiste en ressources humaines, entre autres présidente du réseau Annie RH. Bonjour Annie.
Bonjour Anne.
Être présidente du réseau Annie RH, ça implique quoi?
Ça implique qu'on est bien occupé.
Oui, hein, c'est ça. Je m'attendais à cette réponse-là. Annie, aujourd'hui, on va parler du salaire de nos PDG. Là. Pourquoi gagnent-ils autant ces gens-là?
Oui, Anne. Et là, dans le respect des opinions de tous et chacun, ça ne veut pas dire que tout le monde va être d'accord avec nous, mais moi, personnellement, quand je regarde la rémunération moyenne des 100 PDG du Canada les mieux rémunérés, puis que je constate qu'ils gagnent chacun en moyenne 14,9 millions de dollars par année, je suis outragée. Ça, c'est mon opinion perso.
Oui.
J'en reviens pas. Mais comment en arrive-t-on à trouver que ça fait du sens de payer quelqu'un 14,9 millions par année?
Justement, c'était ma question. Comment on arrive là à ces montants-là?
Oui. Alors, je t'explique ça, Anne. Je vais nous proposer trois pistes de réflexion. Une première un peu philosophique, puis ensuite deux pistes un petit peu plus pratico-pratiques.
Okay.
La première chose, c'est que ça devient un peu, je vais dire entre guillemets, un crime sans victime. Entre guillemets, il n'y a pas de crime. Il n'y a rien d'illégal à payer 150 millions votre président, si vous voulez. Ça, c'est la liberté des entreprises. Mais ce que je veux dire, c'est qu'il n'y a pas de victime. Je m'explique. Si on prend une entreprise, par exemple, qui paie son président, je vais dire 20 millions, vous et moi, Anne, nous ne perdons pas d'argent de nos sous à nous parce qu'une entreprise ABC paie 20 millions à son président. C'est son argent. Même chose pour notre gouvernement. C'est l'argent public, c'est l'argent du privé. C'est pas l'argent gouvernemental. Donc, le gouvernement non plus ne perd pas. Nous pourrions dire, les employés, eux, parce que si le président était payé, disons, 5 versus 20 millions, les sous seraient retournés aux employés. Pas tant que ça. En fait, une fois les salaires payés puis les bonus versés, l'argent qui resterait, le 15 millions, ça devient des bénéfices non répartis qui sont destinés aux actionnaires. Ça serait donc les actionnaires qui mettraient plus d'argent dans leur poche. On pourrait dire, ben ça y est, on les a identifiés, c'est eux les victimes. Mais ce qui se passe, c'est que il y a quelque chose qui se produit, c'est que concentré dans les mains d'une seule personne, ces sommes sont astronomiques, à mes yeux, encore, c'est une opinion personnelle.
Mais le maudit patron, les patrons, c'est eux qui décident du salaire qu'ils vont se donner, j'imagine. Hein?
Mais je veux juste conclure, c'est que partager dans les mains de tous les actionnaires, ces sous-là, le 15 millions, ça devient 5-10 $ dans une année. Ça devient non significatif. C'est pour ça que les actionnaires ne sont pas nécessairement des victimes non plus. Alors, ce que tu nous nommes, Anne, tu dis, on a cette image, là, on a en tête nos présidents avec un peu les mains dans les plats à biscuits, là. Ils décident ça, eux autres, la rémunération pour l'entreprise. Fait que là, ils sont là pour la leur. Wow, 5 millions, 10 millions, 15 millions. C'est pas tout à fait comme ça que ça se passe.
Okay.
Alors, la rémunération, c'est le conseil d'administration, sous la recommandation des sous-comités ressources humaines et rémunération, qui décide de la rémunération du PDG. Et là, on revient à la même histoire. Il y a quelqu'un, quelque part, qui trouve que 14,9 millions, ça fait du sens. C'est ça que ça finit par dire. Hein?
Exactement.
Mais c'est comme ça que ça se produit. Je te partage des pistes. Tantôt, on se disait comment on en arrive à payer ça.
Ouais.
Je t'ajoutais, Anne, deux pistes un petit peu plus pratico-pratiques. La première, c'est que nous, au Canada, depuis 1993, nous avons une législation qui oblige la divulgation des salaires des exécutifs. À l'époque, quand notre législateur a mis ça sur pied, il était bien intentionné. Là. Ça l'avait pour but à la fois de sensibiliser les gens et de générer une espèce d'autogestion par rapport au salaire. L'enjeu, c'est pas ça qui s'est passé. Alors, ce qu'on est en train de réaliser, c'est comme l'information devient super accessible à tout le monde, tous les conseils d'administration semblent vouloir donner un petit peu plus que la moyenne à leur propre PDG, créant ici cette boucle dont nous parlons, là, qui fait une spirale ascendante pour les salaires. Dernière petite chose que je te partage, Anne, c'est que nous, au Canada, on n'a jamais adopté ce qu'on appelle le say on pay.
C'est quoi le say on pay?
Bon, ça, c'est une procédure qui oblige les actionnaires à se prononcer sur le salaire des exécutifs et du président. Tantôt, dans notre première histoire, on disait les victimes potentielles, s'il y en avait, c'était les actionnaires. Alors, responsabilisons. On va les responsabiliser et on va leur demander de se prononcer, tous et chacun, sur le salaire du président.
D'accord.
Nous, on n'a jamais adopté une telle mesure. Je te dirais, Anne, ceux qui l'ont fait à travers le monde, ça a été avec des résultats mitigés. Ça pourrait expliquer pourquoi on n'est pas allé de l'avant avec ça.
D'accord. Tu as parlé à travers le monde. Qu'est-ce qui se fait ailleurs dans le monde, justement?
Cette problématique dont nous parlons, là, c'est universel. Hein. Tous les pays font face à ce défi-là. Il y a des pays qui ont fait preuve d'originalité, qui te partagent ce qu'ils ont fait. L'Angleterre et plusieurs pays d'Europe, eux, ont adopté le CNP, dont je te parlais il y a quelques secondes.
Okay.
L'enjeu, c'est qu'ils ont formulé la législation de façon à ce que la recommandation des le point de vue des actionnaires devienne une recommandation pour le conseil d'administration et non pas une guidance, là, quelque chose qu'ils doivent considérer. Ça a donc eu des effets plus ou moins solides. Je te fais sur la Belgique. La Belgique, elle est intervenue pour les salaires des PDG de l'État. Donc, on parle ces temps-ci pas mal de notre Top Gun au Québec, là, qui va gérer le système de santé, ben, l'agence de santé. Nous, on sait que ce Top Gun, c'est 340, un peu plus que 350 000, hein, 300, je pense que c'est 367 000 qui vont être offerts à cette personne. Il y a des gens qui trouvent ça beaucoup. En Belgique, ce qu'ils ont fait, c'est qu'ils ont adopté une législation faisant en sorte que personne dans l'État, des employés de l'État, peut être payé plus cher que le premier ministre.
OK. Ils ont plafonné, genre.
Ils ont plafonné, eux autres. Ouais. Ils ont dit que c'est 290 000 euros par année, puis ça ne peut pas être plus que ça.
Okay.
À titre d'exemple, M. Legault, nous, au Québec, gagne 270 000 par année. Mm-hmm. Donc, on voit qu'un salaire là au-dessus de 500 000, c'est presque le double du salaire de M. Legault.
Ouais.
Rapidement, l'Allemagne et la Suisse, eux, sont intervenus sur les clauses, ce qu'on appelle les menottes dorées, les parachutes dorées, pardonne-moi. Hein. Okay. Donc, les parachutes dorées qui viennent circonscrire les conditions de départ au moment où un exécutif va quitter l'entreprise. L'Allemagne a dit, c'est correct pour les parachutes dorées, mais ça ne peut pas être plus que 2 ans de salaire.
Okay.
Ça fait du sens. La Suisse, elle a dit, on oublie ça, pas de parachute dorée, c'est illégal. Est-ce que je t'amène sur une toute dernière réflexion?
Oui, ben c'est ça. Pourquoi que les patrons gagnent si cher? Là, ils doivent avoir quelque chose?
Oui, alors leur travail est abstrait, complexe. Ils n'ont pas beaucoup de chances de se tromper. Il faut qu'ils soient, faut qu'il y ait plus souvent raison qu'ils aient tort. Mm-hmm. Ils portent une certaine partie du succès de l'entreprise. Et on estime que ça peut être jusqu'à 20% du succès d'une équipe ou d'une entreprise qui repose sur les épaules du président.
Oui, puis facilement, j'imagine qu'on peut les mettre dehors.
Oui, ils sont sur des sièges éjectables, bon. Absolument. Oui,
exact.
Anne, est-ce qu'il nous reste quelques secondes?
Oui, oui. Ah, OK, oui.
Oui, je te partage une dernière réflexion. Ce qui a été réalisé dans les pays scandinaves.
Okay.
Moi, j'ai trouvé ça inspirant pour possiblement adresser cet enjeu-là dont nous parlons. Dans les pays scandinaves, ils ont dit, on mettra pas un maximum sur les salaires des présidents, mais on va s'imposer, on pourrait s'imposer, ils l'ont pas déployé, on pourrait déployer un pourcentage. Ce pourcentage, ce sera le pourcentage qui va être accepté entre les salaires les plus bas dans une entreprise et celui du président. Je mets ça dans un exemple québécois. Disons une entreprise au Québec qui engage des gens au salaire minimum et qui a évidemment un président, un PDG. Si nous utilisions, par exemple, 60%, ça voudrait dire qu'une telle entreprise ne pourrait pas payer son PDG plus cher que 2 millions par année.
OK.
Si l'entreprise veut payer plus, c'est possible, mais elle va devoir accroître les salaires des gens les moins rémunérés dans l'organisation de façon à toujours conserver le 60%. Je trouvais ça inspirant comme idée.
Bien, c'est vrai, oui, je te donne entièrement raison. Puis le Top Gun que tu parlais tantôt là, de la nouvelle agence Santé Québec, c'est quoi son salaire déjà? C'était quoi, un demi-million?
C'est un petit peu plus que demi-million. Il avait été annoncé la semaine dernière 543 000. Ça a été rectifié ce matin ou ces jours-ci, là, autour de 567 000, je crois.
Un petit bonus. Annie Boilard, merci beaucoup pour toutes ces informations. Bonne semaine.
Ça fait plaisir, Anne. Au revoir.
Bye.